bonjour.
Bonjour, nous espérons que vous allez bien.
Bienvenue pour cette nouvelle session. J'aimerais bien être une petite souris pour pouvoir vous écouter raconter ce qui s'est passé pendant votre temps avec Dieu. Je souhaite pour vous que ça puisse être une expérience qui vous donne envie de continuer.
Absolument.
Donc, on continue dans notre pyramide, deuxième niveau. Mon couple, mon conjoint et moi.
Ouais.
Si on retourne encore une fois à Genèse 2, 24, mm-hmm. avec la création d'Adam et d'Ève, l'homme et la femme, et on se rend compte qu'à la fin de ce verset, la Bible nous dit qu'ils deviendront une seule chair. Quand quelque chose devient un, comment est-ce qu'on peut séparer ce qui est devenu un? Mm-hmm. L'homme et la femme, le mari et la femme sont un, et c'est très important d'investir à ce niveau-là.
Absolument. Dans la première épître de Pierre, au chapitre 3, verset 7, voici ce que nous lisons. « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Hmm. » Mes frères, si vous avez la joie d'être mariés, réalisez bien que vous avez été placés en charge par Dieu pour créer l'atmosphère et l'environnement le plus favorable pour la croissance et le développement et l'épanouissement de votre épouse. Et cela ne pourra pas se faire sans vous, et c'est votre responsabilité de vous préoccuper de cela, et spécialement en honorant votre épouse.
Sinon, c'est un obstacle à vos prières.
Alors, si vous voulez que vos prières soient entendues par Dieu, ne négligez certainement pas ce point, parce que si l'Écriture l'enseigne, c'est que c'est un point capital.
Maintenant, si on regarde le verset dans Matthieu, chapitre 19 et verset 29, qui dit « Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ses sœurs, son père, sa mère ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. » Comment est-ce qu'on peut comprendre ça?
Alors, est-ce que ça signifie que pour le bien du royaume de Dieu, on peut abandonner, quitter son épouse?
Comment est-ce qu'on peut faire ça puisqu'on est un? Il y a quelque chose qui cloche.
Puisque le Seigneur nous demande de ne pas désunir ce qu'il a uni. Donc, en fait, il y a deux approches pour comprendre ce texte. On peut le comprendre d'une manière spirituelle, et en quelque sorte, ce texte nous dirait, placez d'abord votre intimité avec Dieu comme une priorité, et puis votre conjoint et d'autres personnes dans votre vie viennent après. Et là, pas de problème, cela respecte les priorités, on le comprend parfaitement. Le problème, c'est que parfois, dans l'histoire de l'Église, on a vu des croyants, des missionnaires, des fois, prendre ce verset littéralement et envoyer leurs femmes et enfants sur un bateau de retour au pays pendant qu'eux étaient préoccupés du royaume de Dieu et s'occupaient du ministère. Et en fait, ils mettaient le ministère avant leur vie de famille. Et comme on l'a parfois, et vous l'avez peut-être entendu aussi, ils ont placé leur famille sur l'autel de Dieu. Et voilà. Et malheureusement, les conséquences dans la vie, souvent, de ces personnes ont été catastrophiques, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrances.
Au niveau du conjoint, au niveau des enfants.
Alors, peut-être que certains cas, ça s'est bien passé, mais malheureusement, l'histoire montre et notre expérience montre aussi que les conséquences ont été désastreuses dans la plupart des situations.
En fait, si on étudie, si on fait des recherches et qu'on retourne un petit peu à comment la Bible a été écrite, il y a une version qui s'appelle les Nombres Strong, qui vous permettrait de réfléchir à ça. Tu peux
parler? Alors, on ne veut pas ouvrir un débat théologique ici, c'est absolument pas notre point. Mais dans les Nombres Strong, donc c'est un interlinéaire avec le grec, le texte de votre langue, et puis ensuite ces fameux Nombres Strong. Il y a 4 neufs alignés sous le mot femme. Et puis, il y a cette explication, en fait, que les 4 neufs signifient qu'en fait ce mot n'existait pas dans le texte original, et il a été rajouté par les traducteurs pour une meilleure compréhension, soi-disant, ou une meilleure interprétation du texte.
En fait, le Seigneur ne nous a jamais demandé de quitter notre conjoint pour
absolument,
le bien de son royaume.
Absolument. Donc, encore une fois, on ne veut pas ouvrir un débat théologique, mais il semble bien que jamais il a été question d'abandonner sa femme. Si vous abandonnez votre conjoint, comment pouvez-vous servir Dieu? Ça ne semble pas cohérent.
Là, ça nous permet de comprendre aussi le verset dans 1 Corinthiens chapitre 7, 32 à 34,
absolument.
Où Paul prend du temps pour nous dire que mais quand on est marié, mm-hmm. il est normal de s'inquiéter des affaires de son mari et de s'inquiéter des affaires de sa femme, de prendre du temps pour prendre soin de l'autre. Ouais. C'est parfaitement normal dans ce cadre-là.
Alors ça me rappelle un témoignage que j'ai entendu une fois dans une convention pastorale. Et il y avait cet homme d'une île de l'océan Indien et qui donnait cet exemple vrai, et je voudrais vous le partager. Il y avait un pasteur qui, le dimanche matin, devant une église, une grande église complètement remplie, était en train de prêcher son message avec énergie et passion. Et en face de lui, il y avait cette grande allée qui séparait l'église en deux parties et la porte d'entrée. Et il voit d'un seul coup la porte s'ouvrir et puis des ustensiles de cuisine comme il y a là-bas apparaître, des gamelles. Et puis il voit son épouse chargée de tous ces ustensiles en train d'entrer et de marcher face à lui en remontant l'allée. Et alors ce brave frère, il continue de prêcher, mais c'est dimanche matin, c'est le message le plus important de la semaine, mais on voit qu'il y a un trou, ils disent mais qu'est-ce qu'elle fait? Et puis au fur et à mesure où elle avance dans l'église, eh bien, il y a de plus en plus de brouhaha, et les gens la reconnaissent, évidemment, c'est l'épouse du pasteur, puis ils se posent des questions, et au fur et à mesure où elle avance, en fait, de moins en moins de gens écoutent le message, que le frère continue de prêcher vaillamment, mais tous se demandent, mais qu'est-ce que la femme du pasteur est en train de faire? Et puis elle tourne une fois arrivée devant l'estrade, et elle contourne l'estrade, elle monte et elle s'installe derrière lui. Et alors là, elle commence avec toutes ses cuillères, ses pots, etc., comme si elle allait faire le feu là sur l'estrade et préparer sa cuisine. Et à ce moment-là, le brave frère a fait la seule chose qu'il devait faire. Il a arrêté de prêcher, parce que de toute façon, plus personne n'écoutait rien. Tout le monde les regardait. Et il a posé la question que tout le monde se posait, mais chérie, tu fais quoi? Et en fait, c'est à ce moment-là que le meilleur message de la matinée a été donné. Et cette femme regarde son époux et dit, mais en fait, je m'installe là sur l'estrade. Je veux habiter ici parce qu'en fait, je veux habiter avec l'homme qui vit ici sur l'estrade, qui est patient, qui a toujours du temps avec tout le monde pour répondre aux questions, qui est tendre, qui a toutes sortes de qualités parce que celui avec lequel je vis à la maison est tout l'inverse.
Il y a différentes façons de quitter son conjoint. Il y a la manière physique, tu l'as décrite avec certains missionnaires à l'époque qui laissaient renvoyer leur famille au pays. Mais il y a aussi, au niveau pratique dans le foyer, continuer de vivre sa vie chacun de son côté. Et il y a donc une séparation entre les deux. Et cette épouse-là ne voulait plus vivre avec l'homme privé, mais avec l'homme public. L'homme public et l'homme privé devraient être le même, pour qu'ils puissent être un.
Vous imaginez un petit peu le drame et combien elle devait souffrir pour avoir été obligée d'arriver à cet extrême. Je pense que c'est vraiment un exemple qui nous a tous fait réfléchir et devrait tous nous faire réfléchir en tant que mari et en tant que croyant, de quelle façon prenons-nous soin de notre conjoint.
Elle a dû essayer de lui expliquer à son mari de plusieurs manières, mais n'a pas pu toucher son cœur. On aimerait bien vous éviter d'arriver à cet extrême-là.
Et si vous êtes une femme servant Dieu ou ayant un travail qui vous prenne beaucoup de votre temps, eh bien, ça s'applique de la même façon.
Absolument, ça peut être concernait le mari ou la femme.
Absolument.
Donc, je voudrais vous aider à réfléchir à cette question tellement importante. Comment est-ce qu'on investit dans votre couple? Parce que c'est la chose la plus importante qui vient après votre relation avec Dieu.
Si vous réfléchissez bien, après Dieu, la personne la plus importante sur terre, c'est votre conjoint. Mm-hmm. Personne d'autre n'arrive en importance avant votre conjoint.
Réfléchissez à quelle est l'importance que vous donnez à votre relation de couple.
Posez-vous cette question, est-ce que vous avez sacrifié cette précieuse relation de couple sur l'autel de quelque chose? L'autel de votre travail, l'autel de vos loisirs, l'autel de vous-même, l'autel de votre service pour Dieu, c'est possible aussi. À vous de mettre un nom sur cet autel si c'est ce qui s'est produit.
On va mettre trois petits points là et c'est à vous de remplir.
À vous de les remplir.
Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire à ce sujet-là? Qu'est-ce que vous pouvez changer pour que cette relation tellement importante de votre relation de couple arrive après celle que vous avez avec le Seigneur?
On voudrait que vous puissiez réfléchir et méditer sur deux versets qui sont dans Genèse 2, 24 pour le premier et Matthieu 19, 29 pour le second. Et peut-être que vous verrez dans vos Bibles, le mot « femme » a été retiré. Certaines traductions l'ont déjà retiré, d'autres le gardent encore. Vous verrez cela vous-même.
Maintenant, si vous êtes célibataire, vous devez vous demander qu'est-ce qu'il y a au niveau de cette ligne, mon conjoint et moi, puisque pour l'instant, ou c'est votre situation, vous êtes tout seul, bien moi je vais vous dire que c'est une fabuleuse période de votre vie pendant laquelle vous pouvez apprendre à prendre soin de vous, à prendre du temps, pas vous noyer non plus dans votre travail ou votre service, mais prenez du temps pour que votre vie soit équilibrée.
Prenez soin de vous-même.
Voilà, pour que vous puissiez apprendre à avoir une vie équilibrée qui vous permettra ensuite de prendre de bonnes habitudes pour si un jour vous formez une famille, etc. Mais de toute façon, même si vous êtes seul, le Seigneur s'attend à ce que vous preniez du temps pour vous-même, avec lui, et que vous preniez, que vous soignez avec grand détail la relation avec lui et aussi...
Faites-vous plaisir.
Le temps que vous prenez pour vous-même.
Donc, n'oubliez pas que si vous n'avez pas eu le temps de prendre toutes ces questions en note, il y a un guide sur le site web qui vous redonnera ces questions et les versets. Donc, vous pouvez toujours y retourner pour vous souvenir de ce que nous avons partagé.
Merci d'avoir passé ces minutes avec nous.
Que Dieu vous bénisse et bon courage à vous.
À la prochaine fois.
À bientôt. Au revoir.